Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble.
Hey, bonjour, salam alaikum. Je suis tellement heureuse de vous retrouver via ce podcast et c'est assez étrange comme sensation parce que j'ai besoin d'avoir un dialogue au quotidien lorsque j'échange avec des personnes et vous notamment. Et en même temps, je me hâte de ce rendez-vous hebdomadaire à travers lequel je réalise un monologue, je pose ma voix sur ce podcast, mais ça me permet quand même de vous retrouver chaque vendredi. Et subhanallah, c'est indescriptible comme sensation et c'est assez contradictoire à la fois. Bref, je crois que j'aime beaucoup ce format où je peux parler, me délivrer, vous partager mon opinion et ma vision des choses sans qu'Insta me boycotte ou me restreigne mes accès. Ou encore, en recevant à chaque story un message de certaines abonnées qui me disent soit de modifier certains propos, soit de corriger des textes, soit de donner des références du rideau derrière moi que j'ai acheté il y a 5 ans dans un magasin dont je ne me souviens même plus le nom. Alors vous imaginez aller rechercher une référence alors que la plupart du temps, je suis vraiment une influenceuse en carton, hein. Vraiment je me considère pas du tout comme une influenceuse sur Instagram. Parce que pour moi, j'ai mes entreprises en fait, je ne suis pas une influenceuse. Malgré tout, je représente des marques, mais c'est aussi mon travail de représenter des enseignes via The Repère, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et c'est très compliqué pour moi qui aime bien acheter en magasin. J'achète pas une référence ou un nom de modèle ou des chiffres ou un titre. J'achète juste un objet qui me plaît. Le design me plaît, je vais le prendre, je vais même pas regarder comment il s'appelle en fait. J'ai, pour la petite anecdote, un jour on m'a demandé, je me suis fait plaisir avec, bref, je me suis fait plaisir avec de l'argent que j'avais économisé pour m'acheter un sac dans une grande enseigne de marque. Et en fait, c'est des modèles, leurs sacs sont des modèles bien connus. Mais moi, quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai acheté un design en fait, comment vous dire, j'ai acheté un modèle. Oui, mais quand je l'ai acheté, je me fichais de savoir comment il s'appelait, quelle référence il portait, est-ce qu'il était bien connu ou pas connu. J'ai vu le sac parmi tant d'autres, il m'a plu, je l'ai testé, j'ai regardé le prix, ça rentrait dans mon budget, j'ai fait « allez, go, on passe en caisse ». Je n'ai pas essayé à chercher à savoir la référence, le modèle, est-ce qu'il est connu ou pas, ou est-ce qu'on peut le retrouver. Enfin, et en même temps, à chaque fois que je le porte ou que je fais une story sur Instagram, on me demande tout le temps les références et la référence du robot que tu as utilisé dans ta story d'il y a une semaine. Mais les filles, je sais même plus ce que j'ai mangé ce matin. Donc j'avoue que c'est assez compliqué pour moi. Il faut croire qu'il faut avoir cette compétence-là et noter tout ce qu'on achète quelque part dans un carnet pour pouvoir répondre à toutes les demandes qu'on a au quotidien en story, parce que les personnes vraiment le prennent mal. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait partie, m'avez déjà questionné sur des références sur ma story Instagram, mais en fait, certaines d'entre vous le prennent vraiment mal quand je leur dis « je n'ai pas de référence ». Ah ouais, bah ok. Oui, oui les filles, désolée. Bref, je suis en train de m'éparpiller. Donc, je crois tout simplement que ce format me convient parce que je peux être moi sans que personne ne vienne me donner son avis sur qui je suis ou me dicter ce que je dois faire ou dire pour lui convenir. C'est la Fatima 100% naturelle. Même si je le suis sur Instagram, je mets pas mal de barrières, pas mal de limites à ce que je peux dire, ce que je peux faire et ce que je peux montrer parce que sinon, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir soit tout un tas de questions, soit de la malveillance, soit de la méchanceté, soit des propos que je ne peux pas supporter, soit des remarques. En fait, il y a toujours une contrepartie à tout ce que je vais partager. Soit ça va je vais crouler sous le nombre de messages auxquels je vais devoir répondre, non pas concernant le sujet que j'ai partagé et que ça me ferait plaisir d'avoir vos réponses, mais sur un tout autre sujet, c'est-à-dire bah, quand je me suis pris en vidéo, ton canapé il vient d'où, ta télé tu l'as acheté où, là par contre moi je suis pas d'accord avec toi parce que là ce que tu es en train de montrer ne veut pas signifier ce que tu es en train de... Bref, En fait, à chaque fois, il faut que je réfléchisse, ok, là, si je partage ça, il faut que je sois en mesure d'assumer sur mes épaules toute la, soit la charge de travail, soit la méchanceté, soit l'insatisfaction qui va en découler, ou soit bien évidemment tous les retours positifs, mais ça je vais pas en parler parce que c'est toujours un plaisir de recevoir du positif, là où forcément bah, c'est un peu plus contraignant de recevoir du négatif, même si évidemment je suis toujours ouverte au dialogue et à l'échange, le but n'étant pas d'être d'accord, mais de respecter l'avis de l'autre. Quand il les demande, et bien évidemment, quand je ne demande pas d'avis, si je réponds pas, bah respectez aussi le fait que je réponds pas, parce que j'ai pas demandé d'avis. Donc vous me donnez votre avis de manière spontanée, mais si je réponds pas, bah laissez-moi être spontanée en n'ayant pas envie de répondre aussi, vous voyez? Donc bref, j'essaie vraiment de batcher mon travail, c'est comme quand je fais mes missions au quotidien. Quand je me dis le matin entre 10h et midi, je me concentre sur, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, sur ma comptabilité, bah si j'ai un appel entrant, ça peut être n'importe qui, bon à part ma famille ou mes enfants, ça peut être n'importe qui, je ne répondrai pas. Et la personne doit respecter aussi ça. Si c'est pas mon moment compta, bah si c'est un autre sujet que la compta qui rentre, bah il attendra. Et eh ben là, c'est pareil, les messages. Si ça n'a rien à voir avec la story en question, bah si j'ai pas envie d'y répondre, maintenant je m'écoute et je n'y réponds pas. Mais avant ça, il y a eu un long cheminement. D'ailleurs, on va y revenir parce que pour revenir un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime vous lire, j'aime échanger avec vous. Donc déjà, merci à toutes celles qui prennent le temps de m'écrire sur Instagram pour me faire un retour sur le podcast passé et celles qui me laissent des avis positifs sous le podcast. Que vous écoutiez via Apple Podcast, via Spotify, via Deezer, peu importe quelle plateforme d'écoute, vous avez la possibilité de laisser un avis, de mettre 5 étoiles pour que le podcast soit visible et puisse être écouté par le plus grand nombre de personnes. Et d'ailleurs, il est dans le top 5 France sur Apple Podcast. Alors, merci infiniment d'être au rendez-vous, toutes celles qui écoutent sur Apple Podcast. Ensuite, on va démarrer l'épisode du jour. L'intro a été super longue, mais ça y est, vous savez que maintenant c'est spontané et j'aime discuter avec vous, donc ça risque d'être un petit peu long. Préparez-vous. J'ai reçu une idée, donc Olivia, qui est mon assistante de direction, qui m'a conseillé, elle me dit Fatih, mais tu conseilles la méthode du 50-10, donc c'est un peu comme la méthode Pomodoro du 25-5, mais ici c'est la 50-10, qui consiste en fait à travailler pendant 50 minutes focus sur une tâche et se reposer, faire une pause pendant 10 minutes. Parce que moi, les 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, c'est pas assez pour moi. J'aime bien être focus pendant le double de temps sur ma tâche. Donc c'est le 50-10. 10 qui consiste à travailler 50 minutes et se reposer 10 minutes. Et en fait, elle me dit pourquoi tu fais pas des podcasts de 50 minutes? Comme ça, en fait, à chaque fois qu'on a envie d'écouter tes podcasts, bah, on sait que ça va durer 50 minutes et après, c'est quand ils s'arrêtent, bah, c'est le moment de faire ces 10 minutes de pause. Effectivement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Bon, je ne sais pas si je vais l'appliquer dès maintenant parce qu'effectivement, c'est assez compliqué pour moi qui débute sur les podcasts. C'est que mon 11e épisode. Et le fait de gérer ce que je dois vous dire sans partir dans tous les sens, de suivre le fil conducteur des mots que je me suis noté, et devoir respecter un timing de 50 minutes. Déjà, respecter un timing tout court, c'est compliqué, mais respecter un timing bien défini de 50 minutes, c'est pas évident. Mais je vais essayer de le faire. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, donnez-moi vos retours, soit en commentaire, soit via Instagram, pour que je sache si ça peut vous aider. Comme ça, vous savez que vous devez être focus sur une tâche pendant 50 minutes. Eh bien, plutôt que d'écouter de la musique, vous pouvez activer le podcast et vous savez que quand le podcast est fini, eh ben, c'est la fin de votre tâche. Il faut vous accorder les 10 minutes de pause. Voilà, allez, c'est parti enfin pour l'épisode du jour et je voulais passer à la suite de mon parcours, mais finalement je vais satisfaire les nombreuses demandes que j'ai reçues sur Instagram quant au fait de développer davantage mon merveilleux voyage à la Mecque. Souvenez-vous, j'avais besoin d'une pause dans ma vie perso et ma vie pro suite aux épreuves que j'ai vécues suite au port du foulard, où j'ai perdu des clients, j'ai perdu des abonnés. Ça a été très compliqué, où j'avais besoin de me retrouver moi-même pour savoir qui je suis, ce que je veux réellement et qu'est-ce que je peux modifier ou ajuster dans mon quotidien justement pour mieux vivre ces épreuves et pour mieux accepter la situation. Et j'ai décidé de faire un voyage, retourner aux sources et vraiment me diriger vers celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, qui connaît les besoins profonds sans même qu'on ait à les exprimer et qui peut sincèrement nous apporter une aide. Parce que les amis, c'est cool, on peut leur parler, la famille, c'est cool, on peut leur parler, mais ils peuvent pas nous aider à changer ce qu'il y a en nous et à trouver des solutions profondes et efficaces. C'est comme les psychologues, ils nous écoutent, mais finalement, à part nous écouter, enfin, pour moi, c'est pas une solution efficace. Je suis très factuelle. Il me faut de l'action, il me faut du passage à l'action, il me faut du résultat. Et pour ça, ben, la seule solution, c'était de me rediriger et de m'orienter vers ce qui est réel sans être vu et ce qui peut sincèrement nous apporter des solutions et des réponses efficaces. Même si, voilà, je peux comprendre que ça paraisse hyper relatif et que ce soit que des personnes qui, comme moi, ont besoin de toucher, de voir les choses, ça leur permet, enfin, ça leur paraît complètement, comment dire, je trouve pas mes mots, mais irréel en fait de poser sa tête au sol, d'aller faire une prière et de demander des choses à une entité qu'on n'a jamais vue, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas, à part des histoires, à part le Coran, à part sa parole à travers un livre, à part l'histoire des compagnons et des prophètes, on n'en sait pas grand-chose finalement. Eh ben, je pense que c'est juste une histoire de foi. Soit on a la foi et on y croit, et donc on est croyant et pratiquant, soit on n'a pas la foi, et dans ce cas-là, tout ça, effectivement, bah, on n'a pas été guidé, et ça peut complètement paraître fou. Et ça, je l'entends, hein. Je peux entendre que des personnes qui ne sont pas du tout dans des religions, notamment monothéistes, puisse me dire, mais je ne comprends pas comment tu peux accorder autant de confiance à une entité que tu n'as jamais vue, à une entité à qui tu peux parler mais qui ne te répond pas. Et finalement, regardez, là, via ce podcast, on ne s'est jamais vu en vrai. Certaines ne connaissent pas mon Instagram. Et pourtant, j'ai ma voix à travers un podcast. Alors effectivement, là, Dieu, c'est pas sa voix qui nous passe, qui nous communique à travers le Coran, mais c'est ses écrits. C'est sa parole finalement qui est écrite à travers un livre sacré. Il a envoyé des anges à nos prophètes qui nous ont partagé énormément de choses. Donc c'est à travers tout ça qu'on y croit. Et là, vous entendez ma voix, mais finalement, ça aurait pu être une voix lambda d'un robot. Et finalement, peut-être que vous m'aurez quand même écouté, vous voyez, et que vous aurez cru en ce que je vous dis. Et c'est là où soit on y croit, soit on n'y croit pas. Il n'y a pas de juste milieu de bah j'aimerais y croire, mais j'y crois pas. Mais non, c'est soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Pour moi, il n'y a pas de juste milieu. Et avant, peut-être que je n'avais pas assez la foi pour y croire. Aujourd'hui, Dieu m'a guidée et Dieu merci. Et forcément, c'est vers lui que je me retourne quand j'ai besoin de réponses à mes questions. Donc, pour moi, la direction, c'était la Mecque. On arrive, donc on prend nos billets, etc. Un mois avant, je prends notre grand garçon avec nous. On arrive à la Mecque, on fait le voyage, on passe par, on a eu une escale au Liban, dans un aéroport qui fait juste flipper, clairement, pour être familière. On aurait dit que l'aéroport était en guerre. Mais vraiment, ça m'a vraiment marqué cet aéroport où il avait peur. Mon mari me disait, mais dans quoi on a débarqué? Ça n'a rien à voir avec nos aéroports en France ou les aéroports des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. Bref. Et donc, on fait une petite escale au Liban et ensuite on reprend un petit avion direction Jeddah parce qu'on a fait Paris-Jeddah. Et en arrivant, avant d'arriver à Jeddah, en fait, on doit rentrer dans un état de sacralisation, c'est-à-dire que l'homme doit porter un habit bien spécifique où il laisse découvrir juste son épaule, et la femme, du coup, doit être couverte, bien évidemment, de manière mastour, donc de façon pudique,
en mettant son voile. Bon, moi j'étais déjà voile à ce moment-là, donc c'était plutôt facile pour moi. Et on doit entrer en état de sacralisation. Il faut qu'on ait nos ablutions, grandes ablutions et petites ablutions. Et il faut qu'on récite une certaine phrase et qu'on doit répéter jusqu'à notre arrivée. Normalement, c'est jusqu'à ce qu'on voit les habitations, ce qu'on voit la ville. Et ensuite, on doit répéter cette même phrase de notre hôtel jusqu'à la Mecque, enfin pas jusqu'à la Mecque, jusqu'au Mejid, en fait, jusqu'à l'endroit où on va faire la Ramra. Et donc, du coup, on a fait toutes ces étapes. On avait notre petit livret où on lisait au fur et à mesure tout ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, à ce sujet, avant que j'oublie, je vous mettrai le lien en description vers un carnet que j'ai créé, que j'ai commercialisé, avec tout ce qu'il faut préparer si vous voulez faire votre Umrah sans agence, parce que nous, on l'a fait sans agence. Donc, tout ce qu'il faut préparer comme administratif en amont, tout ce qu'il faut prévoir comme connaissances, les sourates qu'il faut connaître pour faire ses prières là-bas, notamment pour réaliser sa Umrah. Il y a des rites bien spécifiques. Tous les rites dont il faut prendre connaissance pour bien faire sa Umrah. Toutes les idées cadeaux que vous pouvez apporter avec vous, mais aussi les idées de cadeaux, de surprises à faire pour quelqu'un à préparer si quelqu'un dans votre entourage a réalisé une Umrah et que vous voulez l'accueillir et marquer le coup. J'ai vraiment tout partagé. Les visites à faire à Mecca et à Médine. Voilà, je crois même que je vous ai mis un contact d'une personne sur place qu'on connaît très bien avec mon mari, qui peut vous réserver vos hôtels, vous préparer votre parcours, etc. Donc ça, je vais vous mettre le lien sous le podcast et je l'offrirai gratuitement à toutes les personnes qui me contacteront sur Instagram et qui auront partagé le podcast, ce podcast, cet épisode de podcast sur leur story en me taguant pour que je puisse savoir qui l'a fait. Laissez-moi un petit mot sur Instagram. Donc, je vous rappelle mon Instagram, chicmum by F. Et vous l'aurez aussi en description du podcast. Et voilà, j'aurai plaisir à vous offrir ce livret qui normalement est vendu. Et je vous offrirai la version numérique pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous et aussi le consulter via votre téléphone si vous partez très bientôt, que vous n'avez pas le temps d'imprimer ou de commander la version papier. Vous pourrez l'avoir sur vous, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Voilà. Donc, j'ai répertorié dans ce carnet tout ce que j'ai fait sur place et tout ce que vous pouvez faire à votre tour, notamment, surtout, tout ce qu'il faut connaître pour réaliser au mieux son pèlerinage. Donc, on en a profité. Donc, on est arrivé à Jeddah, on est en état de sacralisation parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des portes. Pour se sacraliser, il y en a plusieurs. Et quand on arrive à l'aéroport de Jeddah, cette porte pour rentrer en état de sacralisation, elle est dans les airs. Il n'y en a pas à Jeddah. Et vu qu'on faisait nous directement Jeddah et on allait directement à Mecca, on n'allait pas à Médine. Parce qu'il y a un aéroport aussi à Médine. Et à Médine, il y a un endroit où vous pouvez vous sacraliser. C'est une mosquée, je ne sais plus son nom. Mais je vous l'ai noté dans le carnet. Et vous pouvez aller dans ce lieu pour rentrer en état de sacralisation et ensuite aller à la Mecque, faire le voyage Médine-Mecca pour faire votre Umrah à la Mecque. Et nous, du coup, on arrivait via Jeddah et il fallait qu'on entre en état de sacralisation dans l'avion. Donc, monsieur a été dans la cabine, s'est changé parce que clairement, il n'aurait pas pu le faire au Liban, à l'aéroport au Liban, parce que ça faisait flipper. On était les seuls musulmans, je crois. Vraiment, dans l'avion, on était les seuls à entrer en état de sacralisation. Et vu qu'on allait à Jeddah, tout le monde n'allait pas à Mecca pour faire un pèlerinage. Donc, ça nous a fait tout drôle. Mais voilà, on assume, on va faire notre pèlerinage. Donc, il a mis son habit. On est entré en état de sacralisation. Mon fils aussi, a mis son habit. Et arrivé à l'aéroport de Jeddah, on a retrouvé, mon cousin et, la femme de mon cousin, donc, qui habitaient en France et qui ont fait Hijra, à Jeddah. Ils nous ont retrouvés, on a pris le taxi avec eux direction Mecca, on a été directement à notre hôtel pour poser nos affaires. Malgré la fatigue du voyage, malgré le fait qu'on n'avait pas beaucoup mangé, etc., on a donné un petit peu de courage à mon fils qui était très fatigué et on a été faire notre Omra directement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entre en état de sacralisation, je vais pas vous faire un cours ici parce que j'aimerais pas vous raconter de bêtises sur des choses que peut-être j'ai mal fait ou que je ne connais pas, mais il semblerait qu'on ait beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant l'état de sacralisation. Comme par exemple prendre des douches, comme par exemple les rapports intimes. Et il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire en état de sacralisation. Donc on s'est dit, dès qu'on arrive à Mecca, on se décharge, on pose nos affaires dans la chambre et on va directement faire notre pèlerinage. Donc c'est ce qu'on a fait et on a enchaîné directement avec notre Omra. Sauf que, mesdames, écoutez bien, première épreuve que j'ai eue, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas pu entrer dans mon état de sacralisation parce qu'en fait, la veille du départ, j'ai eu mes menstrues. Donc, je n'avais pas mes grandes ablutions, j'ai eu mes menstrues, je ne pouvais pas avoir mes petites ablutions, je ne pouvais pas entrer en état de sacralisation. Mais j'ai mis l'intention d'aller faire un pèlerinage. Au moment où mon mari rentrait en état de sacralisation, moi, j'ai mis l'intention d'aller faire mon pèlerinage. Donc bien évidemment, quand lui a été faire son pèlerinage avec mon fils et du coup mon cousin et la femme de mon cousin, je les ai accompagnés, mais j'étais frustrée au max de ne pas pouvoir faire mon pèlerinage en même temps qu'eux. Parce que quand on a nos menstrues, on ne peut pas. Vu que bah, ça en découle de plusieurs règles et la règle première, c'est de pouvoir prier. Et tu ne peux pas prier si tu n'as pas tes grandes ablutions et tu ne peux pas faire tes grandes ablutions si tu es en état de menstrue, d'accord? Donc je les ai accompagnés au moins pour voir quelles sont, déjà pour voir la Kaaba, forcément, c'était un rêve de l'approcher et de la voir. Je suis entrée avec eux, j'ai fait tout le rite avec eux, mais sans que ce soit considéré comme un pèlerinage pour moi, d'accord? J'étais juste accompagnatrice, je ne faisais pas les prières, mais par contre, voilà, j'en ai profité pour faire des invocations, parce qu'on a le droit de faire des invocations quand on est en état de menstrue, donc j'en ai profité pour faire des invocations, mais je n'ai pas fait les prières, et c'était pas du tout considéré comme un pèlerinage. Donc la frustration au max, j'ai cherché par tous les moyens de stopper mes règles, mais en même temps, je me disais que c'est la volonté de Dieu, s'il m'a fait arriver mes règles à ce moment-là, alors qu'elles ne devaient pas du tout arriver à ce moment-là, c'est qu'il y a un bienfait derrière. Peut-être que Allah a ressenti que mon corps était épuisé et qu'il fallait que je me repose, parce que voilà, quand on a nos menstrues, malgré la difficulté de cette période, les douleurs, etc., c'est pour que le corps se repose. Et finalement, je me suis dit, voilà, écoute aussi ton corps, écoute les messages d'Allah, et voilà, profite de ce moment pour te reposer aussi, pour apprécier le lieu, pour prendre ton temps, ne pas être dans le speed de « je dois tout faire vite, vite, il faut que je profite de ça, vite, il faut que j'aille faire ça à la Mecque ». Voilà, c'est la volonté de Dieu et je n'ai pas cherché par tous les moyens à stopper mes règles. Après, certaines peuvent le faire, ils vendent, vous pouvez aller dans les pharmacies là-bas, il y en a un petit peu partout à Mecca, ils vous vendent des médicaments pour stopper vos règles. C'est possible. Je ne sais pas quelle est la jurisprudence à ce sujet. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Je sais que la pilule, on n'a pas le droit. Donc pourquoi est-ce que le fait de stopper ces règles, on aurait le droit? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas à vous donner mon avis personnel là-dessus. À chacune de se renseigner à ce sujet et de se faire son propre avis en fonction de ce que les savants disent à ce sujet. Donc moi j'ai laissé faire, par contre j'ai multiplié mes invocations en demandant à Dieu de stopper mes règles rapidement pour que je puisse au moins faire une Omra. Parce qu'en fait on avait prévu de rester quelques jours à la Mecque, partir 2 jours à Médine et revenir, donc re-rentrer en état de sacralisation à Médine. Et vu qu'on revenait à la Mecque, j'avais éventuellement la possibilité d'entrer en état de sacralisation à Médine et revenir faire une Omra dès notre retour à la Mecque, parce qu'on restait ensuite encore 4 jours à la Mecque. Sauf que on est arrivé un jeudi, j'ai eu mes règles le mercredi, on est arrivé à Mecca le jeudi, donc mon mari a fait sa première Omra le jeudi. J'avais envie de faire le Jumu'ah, donc la prière du vendredi, absolument. Donc toute la journée du jeudi, j'ai fait des invocations, j'ai pas arrêté de prendre des douches pour espérer arrêter mes règles, etc. Et on partait à Médine le dimanche. Donc vous voyez, ça ne me laissait pas beaucoup de temps parce qu'on revenait ensuite le lundi soir. Et si le lundi soir, j'avais encore mes règles, enfin le lundi, j'avais encore mes règles, je ne pouvais pas entrer en état de sacralisation. Et si mes règles s'arrêtaient une fois à la Mecque, bah finalement, il y en a qui disent qu'il y a un lieu à côté de la Mecque où on peut entrer en état de sacralisation. Mais en fait, vu que ce n'est pas une source sûre, voilà, je voulais être certaine que mon pèlerinage serait accepté. Et du coup, entrer en état de sacralisation dans la porte officielle, le lieu officiel à Médine. Et figurez-vous que le vendredi matin, quand c'était Jumu'ah, donc il y a le Fajr qui retentit, il y a l'appel à la prière qui se fait dans toutes les chambres une heure avant pour qu'on ait le temps de se préparer, etc., faire sa douche, etc., et se rendre jusqu'au Masjid, donc jusqu'à la Kaaba, pour faire notre prière du vendredi, le Fajr, etc. Et après, bon, il y avait le Dohr, etc. Et du coup, on avait cet appel à prière dans la chambre. Donc, on se lève avec mon mari. Je lui dis, vas-y, je vais me doucher et je vais quand même aller faire le Fajr. Donc, je me suis douchée, j'ai fait mes grandes ablutions, mes petites ablutions. J'ai été prier la prière du Fajr. Après la prière, on est revenu. C'était notre petit rituel. En fait, on allait prier très tôt le matin. On revenait à l'hôtel, on allait prendre le petit déjeuner et on revenait se coucher un petit peu parce que finalement, on ne dormait pas beaucoup. Et on revenait se coucher un petit peu, on dormait 2-3 heures et on se réveillait, il était dans les 9-10 heures. Et ensuite on enchaînait parce qu'on ne voulait pas rater non plus la prière du Dohr, le but. Vraiment en arrivant là-bas, on était dans un mood où on voulait tellement faire toutes les prières, tellement faire toutes les bonnes actions possibles. On était vraiment dans un état que je ne peux pas vous expliquer. On était dans une bulle et une course aux hassanettes, parce que tout est décuplé. Vous vous rendez compte quand même que une prière qu'on réalise ici, dans nos maisons, équivaut à 100 000 prières à la Mecque. Je peux vous dire que j'avais pas le temps de rater une prière. On aurait pu me dire que, je sais pas, j'avais la meilleure des passions qui arrivait ou que j'allais gagner la plus grosse des sommes avec un client en prenant l'appel du client à l'heure de la prière. Pour rien au monde, je n'aurais loupé mes prières là-bas. Je faisais mes prières à l'heure. Je faisais les prières surérogatoires, donc non obligatoires. Je faisais les prières du défunt. Je savais même pas comment on faisait la prière d'un défunt. Parce que c'est surtout les hommes, en fait, quand ils vont prier à la mosquée, quand il y a eu un défunt, le vendredi, il y a la prière du défunt, en fait, après la prière obligatoire. Et moi, j'ai jamais eu à la faire, en fait. Et là, je n'en ratais pas une, parce qu'il y a énormément de personnes qui décèdent à la Mecque. Et en fait, après chacune des prières, il y a la prière sur des défunts. C'est même pas un défunt. C'est sur des défunts. Et cette prière aussi, elle apporte énormément de récompenses, énormément de bienfaits. Donc je ne ratais aucune prière, ni obligatoire, ni surérogatoire, ni celle du défunt. J'ai essayé de démultiplier toutes les bonnes actions. Et ce qui m'a marqué, pour la petite anecdote, ce qui m'a marqué à Mecca, et aussi à Médine, hein, c'est que, donc avant chaque prière, il y a un Eden. Donc l'appel à la prière qui nous prévient qu'il va y avoir la prière qui va arriver, donc soit la prière de l'aube, soit la prière de la journée, du début d'après-midi, etc. Il y a cet appel pour que tous les magasins ferment et que tous ces humains qui tiennent les magasins puissent avoir le temps de se rendre à la mosquée pour prier. Et j'étais bluffée. On était, c'était en fin de matinée, quand on s'était réveillé avec mon mari, on s'est dit, allez, avant la prière du Dohr, on va aller faire un petit tour dans... Il y a énormément de shopping, hein, shopping à Mecca, et c'est complètement différent de Médine, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur la différence entre les deux. Mais à Mecca, dans chacun des hôtels, il y a des magasins. En extérieur, il y a des marchands aussi dans les rues, etc. Et en fait, donc on s'est dit avec mon mari, on va aller acheter les souvenirs pour nos familles, etc. On était dans un magasin. On avait beaucoup de choses hein, qu'on voulait acheter. C'était à la caisse. Et on arrivait, il était en train de compter ce qu'on devait payer. Et là retentit le Eden. Alors, ni une ni deux. Le marchand en avait que faire de notre argent. Il m'a dit, gardez votre argent, revenez tout à l'heure si Dieu le veut. Je terminerai votre achat, mais pour l'heure, il faut que je ferme mon magasin, il faut que j'aille prier. Je lui dis, ah bon, mais vous voulez pas, enfin moi j'ai pas l'habitude. Je lui dis, bah, je me dépêche, vous voulez pas accepter l'argent. Il dit, non, tout est une question de mektoub. Et si Dieu m'avait prédestiné votre argent et cette commande, vous reviendrez après la salat et on pourra réaliser l'acte d'achat. Et si c'était pas mon mektoub et donc pas mon rosk et pas ce qui devait me revenir, eh bien c'est pas grave, vous reviendrez pas. Mais libre à vous, on n'a pas besoin de se dépêcher pour encaisser. On n'a pas besoin de se dépêcher. Là, je dois me dépêcher d'aller accomplir mon obligation, c'est-à-dire la prière, pour avoir une bonne place dans un bon rang et être l'un des premiers rangs à prier. Je dis waouh, mais quelle belle claque en fait de foi, quelle belle claque de degré de croyance et de tawakkul, de confiance. Il met en Allah. Waouh, j'étais bluffée. J'ai regardé mon mari, je l'ai pris par le bras, je lui dis allez, allez, allez. Moi aussi, j'ai envie d'être dans l'un des premiers rangs. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, on a juste à sortir et on peut faire nos prières de partout là-bas et se mettre dans un coin dans la rue et poser nos tapis et prier. Et de toute façon, là-bas, toutes les ruelles sont pleines hein, de personnes qui prient à l'heure des prières. Mais effectivement, l'idéal, c'est de se rapprocher de Mesjid pour prier au plus près de la Kaaba, de la maison de Dieu. Et là, il m'avait mis une grosse claque. Donc, ok, on va prier. Il y a beaucoup de monde, donc forcément, pour arriver à un lieu de prière, on met du temps et parfois on n'y parvient pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et quand l'imam commence à faire le Eden, bah, il faut qu'on se place, qu'on remplisse les rangs et qu'on se mette en ligne pour prier. Il faut quand même faire attention à ne pas tomber à côté d'un homme et que les hommes aillent prier avec les hommes et les femmes derrière les hommes. Ça, c'est pour un signe de respect. En fait, si vous voulez, l'histoire que j'ai lue à ce sujet, c'est que les femmes doivent prier derrière les hommes parce que les hommes peuvent avoir une attirance pour le corps des femmes. Et c'est pour ça qu'on prie derrière les hommes pour pas perturber leur prière si toutefois bah voilà, il était faible et que bah il nous regardait prier devant lui. Voilà pourquoi nous on doit s'habiller de façon mastour pour pas attirer le regard des hommes, se préserver du regard malsain aussi parce que c'est surtout une protection pas forcément pour éviter, pour préserver les hommes, mais surtout pour nous préserver nous-mêmes. Et on prie derrière eux pour bah, se préserver d'avoir, comment dire, été la cause de la déconcentration d'un homme. Voilà, ça, Allahu a'lam, je ne sais pas si c'est la vraie source, mais en tous les cas, c'est ce que j'avais trouvé en essayant de comprendre pourquoi on prie derrière les hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les imams sont des hommes, parce que c'est eux qui doivent être devant et animer la prière et pas les femmes. Parce qu'en plus, nous, on a nos menstrues, etc. Donc, si on devait compter sur nous pour animer les prières, bah, forcément, il y aurait beaucoup de turnover parce qu'on ne pourrait pas animer toutes les prières vu qu'on a des menstrues et qu'on n'a pas toutes les menstrues à la même date, etc., etc. Bref, il y a plusieurs explications à cela et c'est pas forcément l'explication que certains non-croyants peuvent nous dire en disant bah oui, mais vous êtes derrière eux parce que. Vous êtes toujours rabaissé par l'homme, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Je vous le rappelle, la femme est une perle en islam et tout est fait pour la protéger, pour la valoriser. Et justement, c'est l'homme qui est... Bon, je vais pas faire ma féministe là-dedans, mais c'est l'homme, je trouve, qui est vachement désavantagé dans l'islam. Nous, on est vraiment des perles rares et on est vachement protégés, je trouve. Donc... Bref, donc on finit nos prières, on retourne faire nos achats, etc. Mais c'est pour vous dire que quand je devais m'occuper de mon fils et aller lui donner à manger, j'étais frustrée de ne pas pouvoir passer ma journée à la mosquée si j'y avais été toute seule, clairement. J'aurais passé ma journée à prier, à rester dans la mosquée. J'avais envie de lire mon Coran plus que n'importe quel moment. Alors que en France, enfin chez moi, j'avais pas forcément cette envie. Je me forçais à aller le lire parce que je savais que c'était un bienfait pour moi et que ça allait me rapprocher de Dieu et c'est ce que je voulais. Mais c'était pas une envie, c'était une discipline où je me forçais certains jours, j'avais pas la motivation et je me disais si, si, il faut que tu y ailles, allez, discipline-toi, il faut y aller. Alors que là, c'était un besoin inconditionnel, c'était une envie. C'est comme aujourd'hui, j'aime faire mon travail, j'aime me mettre sur mon bureau, devant mon ordi et j'aime travailler. Et ben là-bas, j'aimais profondément prendre mon Coran et lire. Parce qu'en fait, finalement, j'avais pas d'autres occupations mondaines. Alors oui, il y avait des boutiques, mais finalement, à part acheter des souvenirs, on a vite fait le tour. Et je me disais, mais non, je suis pas là-bas pour ça. J'ai pas été à la Mecque pour ça. Donc en fait, on reste focus sur ce pourquoi on est venu dans ce lieu sacré, pour faire son pèlerinage et multiplier les bonnes actions. Et j'avais envie de lire mon Coran, j'avais envie de l'apprendre par cœur, j'avais envie de faire les invocations, la citadelle du musulman, je crois que je ne l'ai jamais autant lu. J'ai fait des invocations pour toutes les personnes à qui je pensais, à tous les musulmans dans le monde. J'ai demandé à Dieu de guider certaines personnes qui n'étaient pas encore musulmanes, de guérir le malade, de permettre la réussite à certaines femmes qui lançaient un business, de faciliter la hijra à ceux qui voulaient faire la hijra. Bref. Je crois que j'ai jamais fait autant d'invocations pour autant d'étrangers dans ma vie. Et c'était tellement bon, ça me faisait tellement de bien. Et j'ai jamais aussi peu dormi et je me suis jamais sentie autant en forme. C'était incroyable. La magie, enfin, je peux pas parler de magie, mais le miracle d'Allah qu'il y a dans ce lieu saint est juste incroyable. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir l'envie d'aller là-bas pour ressentir tout ça. Parce que je sais pas, j'ai pas parlé avec d'autres personnes qui n'avaient pas l'envie d'y aller. Je n'ai parlé qu'avec des personnes qui avaient cette envie profonde d'y aller et qui ont répondu à l'invitation de Dieu. Parce que figurez-vous que celles qui vont à la Mecque et qui font leur pèlerinage, c'est des personnes qui ont été invitées par Dieu. Vous imaginez? Vous répondez à l'invitation d'Allah de se rendre dans sa maison. Waouh, rien que ça, ça me fout des frissons. Et finalement, quand vous êtes là-bas, bah forcément, faut l'honorer. Faut l'adorer avec des actes d'adoration, avec des aumônes. Rien que le sourire est une aumône. Répondre à une personne qui vous dit « Salam alaikum » là-bas, c'est normal. Il n'y a pas cette barrière de la langue, même si on parle tous différentes langues. Il y a une... C'est tellement cosmopolite. J'ai tout vu sauf des Français là-bas. J'ai vu des Indonésiens, j'ai vu des Pakistanais, j'ai vu des Américains, j'ai vu des Anglais, j'ai vu des Maghrébins, des Africains. J'ai vu de tout, il y avait tellement tous les pays. C'était incroyable. Et pourtant, on n'avait pas cette barrière de la langue, cette barrière des coutumes. Ils avaient des coutumes qui étaient différentes. Et pourtant, on était là pour pratiquer une seule et même religion et adorer un seul Dieu. Et faire les rites et les actes d'adoration que le livre sacré nous a demandé de réaliser. Et c'était beau, et on se sentait bien, et on se souriait, et c'était agréable. Waouh ! Je me sentais tellement bien. Et finalement, quand je sentais cette frustration de ne pas pouvoir prier davantage, de ne pas pouvoir passer davantage de temps dans la mosquée, etc., parce que y avait aussi des obligations à nourrir mon enfant, etc., et c'est là où je me dis, les femmes qui vont avec tous leurs enfants, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'en fait, chacune de vos actions est un acte d'adoration. Chaque fois que vous allez vous occuper de votre enfant, et voyez, il y a l'Eden derrière moi, ça c'est... Et je vais le laisser. Je vais le laisser dans mon podcast. C'est un... Comment on appelle ça? Un haut-parleur, une sorte de petite radio que m'a offert une abonnée que je remercie encore profondément, qui me l'a offert et qui me l'a envoyé chez moi. Parce qu'en fait, je disais à mon retour de la Mecque, je vais peut-être laisser passer quand même le Eden, Allez, on va se prendre quelques petites secondes, on va l'écouter ensemble. Je vais le laisser en fond.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Et voilà, qu'est-ce que ça m'apaise, j'espère que ça vous a apaisé autant que moi. Mais j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis c'est la première fois dans mon podcast que j'assume cet appel à la prière qui est derrière moi. D'habitude, j'aurais été tentée de couper le podcast ou de vite effacer ce passage pour pas importuner celle qui n'accepterait pas. Et là, dans mon podcast, eh bien, c'est pas une story, je fais ce que je veux et j'assume pleinement cette voix qui me fait énormément de bien, cet appel à la prière. D'ailleurs, je vais me dépêcher pour pouvoir aller prier à temps. Parce que maintenant, désormais, je prie toutes mes prières à l'heure et Dieu merci, le métier que j'ai choisi et donc me lancer à mon compte me permettent aujourd'hui de répondre à cette obligation et à ce rendez-vous d'Allah. Je réponds au rendez-vous de mes clients. Comment je pourrais ne pas répondre au rendez-vous de celui qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, celui qui répond à mes demandes et à mes invocations. Bref, et donc je vous disais tout à l'heure avant d'écouter le Eden que ce qui me manquait en revenant en France, c'était effectivement cet appel à la prière, je ne l'entends plus. Je suis dans ma vie mondaine et ça me manquait chez moi cet appel à la prière. Je me retrouvais des fois à mettre YouTube et mettre juste appel à la prière au moment de prier, juste pour avoir cette sensation que voilà, j'ai rendez-vous avec Allah et il m'appelle à lui. Et je l'avais dit en story. Et j'ai une abonnée qui m'a offert ce boîtier, en fait, c'est une sorte de petite radio où l'heure s'affiche et où je peux programmer les heures de prière. Et du coup, ça s'adapte aux heures de prière de la mosquée à proximité, donc de ma ville. Et voilà, j'entends l'appel à la prière le matin, très tôt, début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée et dans la nuit, où je peux aller prier à l'heure. Donc, tu gagnes énormément de hassanet, de bonnes actions. Cher abonné, voilà, si tu écoutes le podcast, tu le sauras aussi. Et je ne retrouve plus ton compte sur Instagram, parce que je reçois énormément de messages, mais en tous les cas, tu es dans mon cœur et tu es dans mes invocations, parce que ben, ce boîtier m'accompagne au quotidien et c'est par sa cause, en fait, que je fais mes prières à l'heure. Voilà pour la petite histoire. Je ne sais plus où j'en étais avant de vous dire ça. Mais bref, voilà. Ah oui, les mamans qui vont avec leurs enfants, en fait, ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas dans un état de stress ou d'anxiété du fait que vous avez l'impression de louper tout ce pourquoi vous êtes allé à la Mecque, parce que vous devez vous occuper des enfants, rester avec eux à l'hôtel quand c'est l'heure de la sieste, s'ils sont petits, quand ils sont fatigués, il faut rentrer à l'hôtel aussi, vous pouvez pas passer vos journées là-bas parce qu'il faut aussi les nourrir, etc. Que peut-être qu'ils vous sollicitent énormément, donc vous pouvez même pas prendre le temps d'apprécier votre prière, vous devez la faire en speed. Mais c'est pas grave. Dites-vous en fait que mettez l'intention, les actes ne valent que par leurs intentions. Mettez l'intention de faire vos actions pour Allah. Mettez l'intention de changer votre enfant, de le nourrir, d'aller cuisiner pour lui, de le changer, de passer du temps avec lui, de dormir à ses côtés pour Allah. Cette intention, parce que de toute façon, je dis toujours qu'on a deux choix dans la vie. On a le choix de trouver une solution et de trouver le positif et d'avancer. Où on a le choix de rester où on est et de ressasser le négatif et de ne pas avancer et de se faire du mal et d'être anxieux et de pleurer et finalement ne rien changer à cette situation. Donc à vous de choisir ce que vous voulez faire de votre quotidien. Est-ce que j'agis pour changer la situation en bien ou est-ce que je continue à être dans le mal et finalement je ne fais rien et je broie du noir et je continue dans cet état-là. Et finalement ça ne changera rien du tout à la situation. Donc je me fais du mal plus qu'autre chose. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas effectivement, mais il y a des choses qu'on maîtrise, comme le fait de mettre l'intention que chaque acte qu'on fait au quotidien, c'est pour Allah. Si je fais à manger pour ma famille, c'est pour répondre à mes obligations auprès d'Allah. Donc c'est une intention pour Allah. Si je range chez moi, c'est pour que mes enfants et mon mari et moi-même, on soit dans de bonnes conditions pour cette vie et du coup qu'on soit dans un bon mood pour adorer Allah. Chaque petite action sont pour Allah, mettez-y l'intention. Et vous verrez que votre vision des choses, votre vision de la vie ici-bas changera et vous apprécierez un maximum ce qui vous arrivera. Donc je vais pas trop tarder parce qu'il faut que j'aille faire ma prière comme je vous le disais tout à l'heure. Mais je voulais vous partager tout ce que j'ai ressenti de bon là-bas et la différence de ce que j'ai pu ressentir entre mes journées à Mecca, donc à la Mecque, et mes journées à Médine. On a pris le train, donc on a pris la navette, on a pris le train pour aller jusqu'à Médine. Et arrivé à Médine, du coup, on avait un hôtel vraiment juste à côté de la mosquée. C'est là-bas qu'on a enterré le prophète. Il y a une application aussi sur laquelle vous devez réserver pour pouvoir visiter la mosquée, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, on était juste à côté, on pouvait aller prier dedans, etc. C'était incroyable. Et en fait, Médine, c'est tellement reposant. On n'a pas de bruit, on n'a pas de brouhaha. Tout le monde est calme et respecte ce calme-là. La mosquée, elle est incroyablement belle. On a fait des visites aussi, je vais vous lister toutes les visites qu'on a fait. On était apaisé, on était serein. À Médine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas tous ces centres. Il y a des centres commerciaux. Enfin, c'est pas des centres commerciaux, c'est des hôtels où il y a des boutiques où on peut acheter. Mais en fait, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Enfin voilà, autour de la mosquée, en tous les cas, tout est beau, tout est propre, tout est. Mecca aussi, à l'intérieur de Magie, tout est beau, tout est propre. Hein. Mais Médine, c'est. C'est autre chose, c'est différent. Et là-bas, une prière équivaut à 1000 prières. Donc en fait, vous avez juste envie de passer vos journées à prier, à lire, à faire des invocations. Et on a fait des visites aussi. Donc pour les visites, on a visité le mont Uhud, là où s'est passée la bataille de Uhud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas où sont enterrés aussi certains compagnons qui ont fait cette bataille de Uhud. Vous pouvez voir là où ils sont enterrés. On a fait la mosquée de Qiblatin avec les deux Qiblas, avant que la Qibla vers la Mecque ne soit choisie. On a fait la mosquée Quba, on a été visiter la palmeraie. D'ailleurs, je vous ai partagé quelques photos sur Instagram. C'est la photo où on est avec mon mari et mon fils assis, où il y a tous les palmiers, où on peut acheter aussi des dattes, etc. On n'a pas eu le temps de tout visiter, mais vous pouvez aussi visiter Badr, visiter le musée Dar el Medina, le Mont Arafat, Jabal el Nour, la grotte Hira. Ça, c'est entre. Voilà, il y a des visites à faire sur Médine, il y a des visites à faire aussi à Mecca. Hein. J'ai tout mélangé ici. Et du coup, ce que je ne vous ai pas dit, et on garde le meilleur pour la fin, c'est que suite à toutes mes invocations, cette envie profonde de faire ma Umrah, ce besoin, parce que ben, je ne roule pas sur l'or et pour autant j'ai mis mes économies pour pouvoir faire ce voyage plutôt qu'un autre voyage, eh bien Allah a exaucé mes souhaits. Et figurez-vous que moi qui ai normalement des menstrues qui peuvent durer jusqu'à 10 jours, et oui, merci l'endométriose et le stérilet en cuivre. Et ben du coup, mes règles se sont arrêtées dans la journée du vendredi. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Mes règles se sont arrêtées avant Salat Dhor. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'avais prié. J'avais fait mes grandes ablutions pour faire Salat Fajr, donc celle de l'aube. En retournant à l'hôtel, on s'était reposé, on est sorti ensuite un petit peu après. On est retourné à l'hôtel pour que je vérifie si je pouvais aller prier Dhor. J'ai eu quelques traces. J'ai refait mes grandes ablutions et mes petites ablutions pour aller prier Dhor. Et mes règles ne sont plus jamais revenues, en tous les cas pendant mon voyage à la Mecque. Mais est-ce que vous imaginez le miracle? Je n'ai eu que 2 jours et demi de règles à la place de 10 jours. Incroyable. Et donc du coup, j'ai pu prier, j'ai pu aller à Médine, j'ai pu faire mon état de sacralisation et en revenant à Mecca, j'ai fait ma Umrah officielle. Donc mon mari est re-rentré dans un état de sacralisation et il a refait sa Umrah avec moi parce qu'il peut en faire plusieurs. Il peut en faire une pour lui et il peut en faire une pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, lui c'est ce qu'il a fait. Et du coup, on a refait le pèlerinage tous ensemble. Et c'était incroyable. Ce qu'on ressent, c'est juste incroyable. Et en fait, à Mecca, ce qu'on a fait et ce que chacun peut faire, et je vous invite vraiment à le faire parce que la récompense est incroyable, c'est d'aller dans les restaurants qui sont dans les hôtels où les repas coûtent vraiment rien du tout. Et en fait, en sous-sol, nous, on était dans la tour de l'horloge, donc dans l'hôtel principal, hein. Et quand on descendait au sous-sol de cette tour de l'horloge, il y a des restaurants qui font du riz, du poulet, etc. Ils préparent des plats. Et en fait, on peut commander des plats complets avec de l'eau, avec du pain, avec le riz, le poulet, etc. Vous choisissez la formule que vous souhaitez. Ça coûte environ 5 euros. Et vous pouvez leur commander à l'avance le nombre de plats que vous souhaitez. Ils vous aident à aller en extérieur, à tout porter, ils mettent ça dans des gros cartons, et ils vous aident à aller en extérieur, et que quand je vous dis ça, que Dieu m'éloigne de toute ostentation et qu'il me pardonne si dans mon cœur il y a une once d'ostentation, je ne vous dis pas ça pour vous montrer ce que moi j'ai fait, je vous dis ça pour vous inviter à faire le bien aussi, et pour vous montrer que vous pouvez le faire là-bas, parce que moi je ne le savais pas. Et c'est que dans les derniers jours, parce que sinon j'aurais aimé le faire plus de fois, et c'est dans les 3 derniers jours qu'on nous a dit, bah, effectivement, parce que je voulais, il y avait des nécessiteux, et je voulais, pendant que j'achetais mon repas, je voulais leur acheter un repas. Et c'est là où le monsieur me dit, mais vous savez qu'on peut vous préparer des plats si vous avez envie d'en faire don. Faire une aumône, on peut vous les préparer, vous revenez les chercher, on vous accompagne en extérieur et vous pouvez en faire don à toutes les personnes, les travailleurs. Voilà la meilleure heure parce que les travailleurs qui sont là-bas, en fait, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Ils ont dédié leur vie à Dieu. Ils sont là à nettoyer la mosquée de fond en comble. On pourrait dormir, on pourrait embrasser le sol tellement c'est propre. Et ils sont là vraiment du matin jusqu'au soir, ils dorment jamais. Là-bas, c'est une ville qui dort jamais. Les gens prient tout le temps, même la nuit. Et, et ils sont toujours là à travailler. Et en fait, ils ont fait le choix d'œuvrer dans le sentier de Dieu et ne manger qu'un jour sur deux ou un jour sur trois. Vous imaginez ? Donc en fait, quand on l'a fait, on était, mais j'en pleurais tellement, il y avait une queue de je ne sais pas comment vous dire, d'une dizaine de mètres qui se prolongeait, parce qu'ils nous ont vus arriver avec des cartons de nourriture qu'on voulait distribuer, avec des bouteilles d'eau, avec du pain qu'on voulait distribuer. Et en fait, il y avait des personnes âgées, il y avait des femmes âgées, des vieillards. J'ai revu mon grand-père, ma grand-mère, j'ai vu mon père, ma mère qui étaient là en train d'attendre que moi, qui suis personne, leur donne à manger. Mais je me suis effondrée. J'avais envie de tous leur donner. Malheureusement, on ne pouvait pas donner à tous ceux qui étaient venus. Et le temps d'aller en repréparer d'autres, finalement, bah, ils devaient partir, en fait. Mais comment ça m'a fait mal au cœur. Donc du coup, il y avait mon mari qui distribuait à manger dans l'ordre de la file. Et moi, avec mon fils, on prenait des sacs, en fait. Et on allait dans la file prendre les vieillards, prendre ceux qui avaient des bébés et leur donner directement sans qu'ils aient à attendre. Les personnes en situation de handicap, on leur distribuait sans qu'ils n'aient à attendre tout le long de la file et peut-être ne même pas pouvoir atteindre la nourriture, en fait, parce que ça partait très très vite. Il y avait énormément de monde. Et faites-le vraiment si vous voulez faire quelque chose de bien dans votre vie. Économisez votre argent. Économisez toutes les futilités que vous pouvez dépenser au quotidien pour du matériel qui peut partir en fumée dans un incendie, qui peut partir en fumée quand on vous cambriole. J'ai perdu tous mes bijoux en or quand on m'a cambriolé. Qu'est-ce que j'aurais aimé les vendre et avec cet argent pouvoir nourrir les nécessiteux. Faites le bien tant que vous êtes sur terre. C'est des actes qui vont contribuer dans votre balance de bien. Et ça, c'est des sédéras qui vont contribuer à votre bien le jour du jugement dernier. Et vous serez content d'avoir fait ça. Et avant même de pouvoir voir les fruits le jour du jugement dernier, vous voyez les fruits ici-bas. Vous voyez les gens qui sont contents. Juste manger, de boire de l'eau potable. Vous leur offrez de l'eau. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, je finirai sur cette bonne note de générosité. En vous invitant à faire le bien également. Donc là, on est pendant le Ramadan de l'année 2024. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast. Vous l'écouterez peut-être en décalé. Sachez que chaque année, au moment du Ramadan, je lance une cagnotte, donc c'est pas moi qui la lance personnellement, mais c'est parce que je suis ambassadrice de l'association Aux Enfants. Et ça fait des années maintenant que je lance en partenariat avec eux, donc je suis évidemment pas rémunérée ou que sais-je pour vous en parler, c'est juste que je suis moi-même donatrice. Et j'ai décidé de faire des forages depuis plusieurs années. Sachez que le forage « Offrir l'eau », c'est une sedaqa jariya, c'est comme planter un olivier, c'est comme planter un arbre fruitier, etc. Tant que les personnes bénéficieront de ce que ce forage va donner comme eau, que cet arbre va donner comme fruit, etc., vous allez, même après votre mort, continuer à accueillir les bonnes actions, même après votre mort. C'est l'une des sedaqa. C'est l'une des aumônes qui continue à fructifier votre balance des bonnes actions après votre mort. Et il n'y en a pas beaucoup, ça. Il y a l'invocation de vos enfants, et il y en a d'autres que je ne peux pas toutes vous citer ici, mais je vous invite à faire vos recherches. Et la construction d'un forage en fait partie. Donc chaque année, au mois du Ramadan, je lance la construction de plusieurs forages et en fait contribuer et en fait bénéficier mes abonnés sur Instagram. Donc je partage tout le mois du Ramadan cette cagnotte et vous pouvez y participer. Donc vous retrouvez le lien dans ma bio Instagram. Je vous rappelle mon compte Instagram Chicmum by F. Je vous remets le lien du forage en question dans la description de ce podcast que vous pouvez retrouver. Vous avez juste à cliquer. Et sinon, si vous ne pouvez pas cliquer dans le lien de ce podcast parce que vous l'écoutez sur votre téléphone ou vous ne trouvez pas ou quoi, allez sur mon compte Instagram et vous avez le lien dans ma bio. Je peux pas mettre le lien en story parce que Instagram n'aime pas quand on met des liens en story et du coup ça me baisse mes vues. Et pendant le ramadan, vu que je partage cette cagnotte, j'ai pas envie que mes vues baissent à cause d'un lien, alors que vous pouvez très bien cliquer sur mon compte et aller retrouver le lien directement dans ma biographie. Donc n'oubliez pas de faire le bien autour de vous. Je ne connais aucune personne qui s'est appauvrie parce qu'elle a fait une aumône. Au contraire, on s'enrichit de faire le bien autour de nous et on s'enrichit encore plus en offrant un forage parce qu'on s'enrichit de pouvoir offrir l'eau. On s'enrichit de voir le sourire sur les personnes parce que je vous montre à chaque fois quand les forages sont inaugurés et j'espère pouvoir un jour y aller moi-même pour inaugurer un forage en physique et vous partager ça sur Instagram. Mais Sana, qui est la fondatrice de l'association aux enfants, à chaque fois que c'est des forages de ma Chick Mom Team, elle m'envoie les vidéos, elle m'envoie les photos pour que je puisse vous les partager. D'ailleurs, vous les retrouverez toutes ces vidéos et photos sur mon compte Instagram Chick Mom by F. Et c'est d'autant plus gratifiant quand on voit la réalisation finale de ce pourquoi on a contribué. Donc je vous invite à faire le bien. Et pour suivre la suite des aventures, c'est promis. La prochaine fois, mon aventure à la Mecque et ce merveilleux voyage, du coup, je pense vous avoir raconté dans la globalité, je pourrais y passer des heures, mais on va aussi continuer dans la suite pour vous donner la suite des aventures et vous inviter vous aussi à faire ce voyage et vous montrer que c'est pas juste un point final à votre vie, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Et je vais vous partager comment ça a impacté positivement le reste de ma vie et qu'il faille aussi faire preuve de patience, et c'est pourquoi je vous demande de patienter. Jusqu'au prochain épisode, on se retrouvera vendredi prochain pour partager un nouveau moment ensemble. Et en attendant, sens-toi libre de partager l'épisode à tes amis et me laisser ton avis. Ne minimise pas l'aide et l'impact que tu peux avoir sur mon quotidien et celui des autres de par une simple action gratuite, comme celle-ci ou bien d'autres encore. Je prends plaisir chaque semaine à lire vos retours sur Instagram. Ça me permet aussi de retrouver cet échange mutuel que j'affectionne particulièrement. Je t'embrasse et te dis à vendredi prochain, si Dieu le veut.